Hier s'est ouvert à la cour criminelle de Seine-Saint-Denis, près de Paris, le procès de deux hommes jugés pour violence 4 ans, jour pour jour, après le décès de Jérémy Cohen. Vous savez, c'est ce jeune juif roué de coups à Bobigny qui avait réussi à s'enfuir de ses agresseurs avant d'être mortellement percuté par un tramway. Pour en parler, on reçoit ce matin, ou plus particulièrement Jonathan Serrero reçoit ce matin Caroline Sportez, avocate au barreau de Paris. On écoute leur échange.
Caroline Sportez, bonsoir.
Bonsoir Jonathan, comment ça va ?
Ça va très bien, ça va très bien, merci. On a dit que les deux meurtriers présumés dans cette triste affaire, Jérémy Cohen, pouvaient encourir jusqu'à 20 et 6 ans d'emprisonnement. Mais n'est-ce pas triste de se dire d'avance que leur condamnation risque d'être plus clémente ?
Oui, puisque déjà, effectivement, les chefs d'accusation, que vous avez très justement rappelé, violence sans intention de la noder, déjà peuvent être clairement remis en cause, puisque je rappelle que ce jeune homme, Jérémy Cohen, a été véritablement lynché à plusieurs reprises et que, en voulant échapper à ses agresseurs, justement, il a percuté le tramway. Donc déjà, il y a un manque de sévérité à la base. Donc effectivement, malheureusement, on peut craindre une décision trop clémente, bien trop clémente pour ce crime, pour ce climat affreux. C'est malheureusement un des gros problèmes de la justice en France, c'est que le prévenu est davantage considéré que la victime. Hein, pour vous redonner un exemple assez récent, on l'avait vécu avec Salah Abdeslam, je rappelle le terroriste du Bataclan, qui avait eu le droit à un parloir, qui avait pu passer une clé USB, qui a même demandé à bénéficier de la justice restaurative. Enfin, je veux dire, voilà, on a une vraie difficulté. Et on en a une deuxième.
Comment expliquer cette clémence, Caroline ?
C'est difficile à dire pour moi parce que je fais partie de ce monde de la justice en tant qu'avocat, mais je crois malheureusement, il ne faut pas avoir peur de le dire, je crois malheureusement qu'il y a une tendance très 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 à gauche de la justice française, des magistrats, qui fait que voilà, qui fait que on va être plus clément avec les prévenus sans considération suffisante pour les victimes et surtout dans ce genre de meurtre, parce que là on parle de Jérémy Cohen. Alors on sait que la circonstance d'antisémitisme n'est pas retenue dans ce cas-là. Alors, pour avoir un petit peu regardé, parce que c'est vrai que c'était un petit peu ancien, donc je m'en rappelais pas trop. Bon, on peut imaginer que dans ce cas-là, les voyous en question n'aient pas vu, n'aient pas reconnu la judéité de Jérémy Cohen. Donc, mais c'est pas vrai pour d'autres affaires qu'on connaît malheureusement très bien aussi.
Voilà, puisque en toile de fond de cette affaire et de celle qui a coûté la vie, on s'en souvient, à René Hadjadj, oui, 89 ans, défenestré par son voisin d'origine maghrébine, il y a l'antisémitisme, et même si le meurtrier de René Hadjadj a été condamné tout de même à 18 ans de réclusion, le mobile antisémite a été écarté par la Cour. Alors pourquoi la justice française refuse de voir et de défendre la vérité ?
C'est tragique. Dans le cas de Monsieur Hadjadj, on l'a vu aussi avec Madame Knoll. Enfin, c'est épouvantable, alors que c'était son voisin. Il savait pertinemment que ce monsieur était juif. Le fait de l'avoir défenestré, etc., c'est pas du tout anodin. Il est évident que la circonstance aggravante d'antisémitisme aurait dû être retenue et qu'elle ne l'est pas. Elle ne l'avait pas été non plus. Je sais pas si vous vous rappelez de cette nounou qui avait empoisonné dernièrement un Shabbat tout entier et qui même l'a verbalisé. Elle a verbalisé son antisémitisme et pourtant, on a envie de dire au magistrat, mais que vous faut-il de plus ? Là, c'était même dans ce cas-là le prévenu qui s'enorgueillit, j'ai envie de vous dire. Eh ben non, ça ne suffit pas. On ne reconnaît pas ça. On ne veut pas reconnaître la circonstance aggravante d'antisémitisme. Ça n'arrange pas certains magistrats. Et puis ça, par clientélisme, je pense, et par crainte de je ne sais pas quoi. Enfin, c'est
peut-être par crainte de stigmatiser une communauté par rapport à une autre.
Bah, en tout cas, là, l'idée n'est pas de stigmatiser une communauté par rapport à une autre. C'est simplement de reconnaître la circonstance aggravante d'antisémitisme. Voilà, c'est tout. C'est tout. On va pas dire qu'il y a une communauté spécialement qui se livre à ce genre d'acte, mais en tout cas, il faudrait reconnaître quand c'est clair et avéré la circonstance aggravante d'antisémitisme. C'est important. Je pense que notre pays en a clairement bien besoin.
Est-ce que ce type de décision peut faire peser un danger sur la communauté juive en France?
Ah bah oui, je pense de toute façon que le danger pour la communauté juive en France, il est clair et avéré. Pour moi, le démarrage, bon, évidemment, à part le post-7 octobre et qui a complètement désinhibé l'antisémitisme, je rappelle quand même à nos auditeurs que l'antisémitisme n'est pas une opinion, mais un délit qui est puni par la loi. Il y a eu le faux pas, la faute morale de notre président qui n'a pas voulu marcher contre l'antisémitisme. Et ça, je pense que c'était le pas, enfin, c'était la faute de trop. Voilà.
Alors, il n'y a pas que les Juifs qui sont victimes et la cible des sympathisants de la cause palestinienne ou des antisémites. Il y a aussi des militants proches de la droite nationaliste française, puisque Quentin, 23 ans, a été lynché à mort par des admirateurs de Rima Hassan et de la France insoumise en marge d'une conférence organisée à la faculté de sciences politiques de Lyon. C'était la semaine dernière, fin de semaine dernière. Là aussi, les faits parlent d'eux-mêmes. Mais on sent que les médias, les pouvoirs publics ne veulent pas dénoncer les principaux responsables de ce meurtre. Qu'est-ce qu'ils craignent?
Ben c'est pareil, je pense que de toute façon on le sait, hein, on sait que certains médias, pour ne pas dire presque tous, hein, à l'exception de quelques-uns, sont plutôt très sympathisants LFistes. Du coup, effectivement, on ne peut pas dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Et là, en tout cas, ce qui est clair, alors je sais que l'enquête est en cours, donc il faut toujours parler de manière mesurée, mais ce qui est clair, c'est qu'apparemment, ce sont des jeunes qui appartiennent à la jeune garde qui ont lynché ce pauvre jeune homme qui a été lynché à mort, hein, lynché à mort. Donc, lynché à mort, je veux dire, quand vous avez un homme à terre qui ne peut même pas se défendre. Je veux dire, là, il y a vraiment une volonté de le tuer, de le mettre à mort. Clairement. Alors, on sait que c'est donc cette jeune garde qui est à la source de ce lynchage. On sait aussi que c'est une mouvance clairement d'extrême gauche. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'entendais Jean-Luc Mélenchon, une rediffusion d'un de ses discours en avril 2025, qui reconnaît l'appartenance claire de la jeune garde à la France insoumise. Donc le lien, il est avéré. On sait aussi, a priori, alors il n'y a pas eu d'interpellation, moi ce qui m'étonne beaucoup, parce que je crois qu'il y a au moins trois individus qui ont été, trois identités d'individus qui ont été déterminées, et qui sont des assistants parlementaires de Raphaël Arnaud, qui est un député insoumis, qui vient d'ailleurs d'être condamné de manière définitive pour violence en réunion, et qui est fiché S quand même, c'est quand même intéressant de
Fiché
le
S,
rappeler.
oui.
Voilà, donc c'est
Ouais.
quand même intéressant de le rappeler. Donc là-dessus, déjà, on sait ce qu'il en est. Alors, on ne dit pas que c'est LFI qui a commandité le lynchage de ce jeune homme,
Sûr.
mais par contre, ce qui est certain, et ça, je pense qu'il ne faut pas craindre de le dire, que c'est l'idéologie LFI qui a entraîné ce qui s'est produit. Ça, je pense que y a deux grands piliers quand même chez les LFistes. C'est l'inversion victimaire et l'appel à la violence et au chaos. Ça, je pense que c'est clair.
Rima Hassan déverse son fiel antisémite et anti-français sans être sanctionnée, le moins du monde. Alors pourquoi bénéficie-t-elle d'une telle impunité?
Alors,
Là
ça,
aussi,
je vous.
la
Oui.
justice
Alors,
la laisse continuer
oui.
à déverser sa haine.
Ça, je vous avoue que. C'est un grand mystère pour moi en tant qu'avocat parce que j'ai eu quand même le privilège de lire plusieurs plaintes qui ont été déposées contre Rima Hassan et notamment une qui a été rédigée par mon excellent confrère Kaminski où vraiment sont relatés de manière extrêmement précise les faits, son appel à la violence, ses appels, enfin son apologie du terrorisme. Enfin, je veux dire, c'est clair. Je veux dire, il y a pas de débat. N'importe quel magistrat qui devrait instruire ses plaintes ne pourrait pas ne pas entrer en voie de condamnation. Et je vous avoue que c'est un mystère pour moi et je n'ai pas la réponse. Alors, encore une fois, nous savons qu'au sein de la justice, la mouvance LFiste est très très présente. Je ne vois pas d'autre explication que celle-ci. Mais je ne comprends même pas pourquoi elle n'est pas déchue de sa nationalité. Enfin, je veux dire, les appels à la violence sont les uns plus violents que les autres chez Rima Hassan.
Existe-t-il des risques de guerre civile? Et là, c'est la citoyenne que j'interroge plus que l'avocate. On sent qu'il y a qu'il y a des germes de conflits internes au sein des deux extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite française, et que tôt ou tard, malheureusement, on ne le souhaite pas, bien évidemment, tôt ou
Non.
tard, ça risque d'éclater.
Alors, c'est vrai que les Français ont fait la Révolution française, hein, donc nous sommes un peuple de révolutionnaires, on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, je trouve que la majorité est bien trop silencieuse. Alors, évidemment que ce serait une catastrophe d'arriver à une extrémité telle que la guerre civile, mais quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Soit la justice fait preuve de fermeté pour rappeler à l'ordre la France insoumise et entrer en voie de condamnation quand il le faut. Voilà, pour effectivement que les choses, si vous voulez, se calment entre guillemets, et que nous évitions une catastrophe qui est telle qu'une guerre civile. Mais moi, je vous dis franchement, moi, celui qui m'inquiète le plus, c'est Jean-Luc Mélenchon, parce que je l'ai réécouté encore tout à l'heure, et c'est un grand orateur. Il est extrêmement dangereux, et moi, il me rappelle. Enfin, il a des grandes phrases, hein, la police tue, la République c'est moi, et tout ça, les petits esprits l'entendent, si vous voulez. Il simplifie la complexité des choses, d'accord? Et c'est ce que les gens aiment aujourd'hui. On est à l'ère des réseaux sociaux et du 2.0, c'est peut-être ce qu'on aime, des phrases comme ça, toutes faites, etc. Et c'est une vraie catastrophe. Et plus c'est gros, et plus ça passe avec Mélenchon. Et cette dont je vous parlais, cette inversion victimaire, ça, en fait, a crié toujours au fascisme. Mais les fascistes, ce sont les gens d'extrême gauche. Et tous les grands dictateurs, tous les fascistes ont toujours été d'extrême gauche. Hitler était d'extrême gauche, hein, donc je veux dire. Et plus c'était gros, plus ça passait, hein, donc ça m'inquiète fortement.
Caroline Sportet, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.